France Culture.
Le journal, ce journal de 18h est présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Quentin, bonsoir à toutes et à tous. En l'absence des États-Unis, la conférence de l'ONU sur les océans s'ouvre sur des appels au multilatéralisme pour protéger haute mer et fonds marins. Véronique Rebérot est à Nice pour suivre le sommet. Aux États-Unis, les gouverneurs des États démocrates dénoncent un abus de pouvoir après la décision de Donald Trump de déployer la garde nationale en Californie face à des manifestants opposés à sa politique migratoire. Nous analyserons la situation avec notre correspondant Sébastien Paour. Les dirigeants d'extrême droite réunis dans le Loiret autour de Marine Le Pen et Jordan Bardella s'en prennent de concert à l'Union européenne. Reportage d'Antoine Marette. Après l'interception par la marine israélienne du bateau humanitaire Madeleine, qui tentait de rallier la bande de Gaza, la France demande le retour dans les plus brefs délais de ses 6 ressortissants. Nous reviendrons sur les réactions politiques avec Rosalie Lafarge. Après les scientifiques, la semaine dernière, ce sont les dirigeants mondiaux qui se retrouvent sur la Côte d'Azur. La conférence des Nations Unies sur les océans s'est ouverte aujourd'hui à Nice sur des déclarations fortes. Emmanuel Macron a pris la parole le premier pour défendre le multilatéralisme. « Les abysses ne sont pas à vendre », a notamment déclaré le chef de l'État. Pas plus que le Groenland, l'Antarctique ou la haute mer. Vous êtes à Nice pour suivre ce sommet. Véronique Rebérot, bonsoir.
Bonsoir.
Le nom de Donald Trump n'a pas été prononcé, mais il a souvent été visé dans les discours, notamment à cause de l'intention des États-Unis d'aller exploiter les grands fonds marins, Véronique.
Oui, c'est ça, le grand méchant loup de mer, en l'occurrence, quand on parle protection de l'environnement, a pourtant bien un nom. Donald Trump, ennemi du multilatéralisme, ayant manifesté effectivement tout récemment, unilatéralement, son intention dans les forêts, en eau profonde, dans les eaux internationales, pour y exploiter 10 minerais. Le secrétaire général des Nations Unies savait précisément qui il visait en disant cela ce matin.
The deep sea cannot become the Wild West.
Voilà, pour Antonio Guterres, les grands fonds marins ne doivent pas devenir un Far West, un saut dans l'inconnu extrêmement dangereux pour le portugais Tiago Pita de la fondation Océano Azul.
Ce qui se passe aux fonds marins reste pas aux fonds marins. Toute la mer est gravement affectée. En fonds marins, on a tous les métaux sont lourds, le mercurium, radioactivité, il y a tout.
Tout va remonter à la surface.
Oui, donc va à la surface et dans la colonne de l'eau, il y a les poissons.
Donc c'est très dangereux. Vous dites on fait un saut dans l'inconnu qu'il ne faut pas tenter.
Oui, les scientifiques nous disent que ça, c'est vraiment la dernière agression à l'environnement marin. Alors on doit faire la moratoire.
Voilà, on doit faire un moratoire. Emmanuel Macron espère donc obtenir à Nice une large adhésion pour ce moratoire sur l'interdiction de l'exploitation des grands fonds marins et bien d'autres victoires dans la ville de Nice, la bien nommée selon le président.
Le nom de Nice vient de victoire, Niké en grec. Et dans ce port fondé par des marins phocéens au bord de la Méditerranée, c'est aujourd'hui une victoire que nous célébrons en quelque sorte, une victoire pour nos océans. Mais victoire fragile. Car elle requiert des actions rapides et elle ne suppose aucun recul.
Alors première victoire ou presse dont pourrait se prévaloir la France à Nice, celle d'avoir accéléré la mise en œuvre du traité sur la haute mer qui mènerait à la protection de 2/3 des océans. 60 pays doivent ratifier ce traité pour qu'il entre en vigueur. C'est gagné, a dit le chef de l'État. Ceux qui n'ont pas encore ratifié le traité ont promis de le faire d'ici la fin de l'année, ce qui permettrait l'organisation d'une COP océan dès l'année prochaine.
Véronique Rebérot en direct de Nice avec Virginie Lorda à la technique. L'extrême droite européenne s'est réunie cet après-midi dans le Loiret pour une fête de la victoire un an après les élections européennes. La liste menée par Jordan Bardella était alors arrivée en tête du scrutin en France avec plus de 31% des voix. Le vice-président du Conseil des ministres italien, Matteo Salvini, était présent, comme le premier ministre hongrois, Viktor Orban, mais aussi bien sûr Marine Le Pen, et tous avaient une cible commune, Antoine Marette, l'Union européenne.
Aux côtés de ses alliés conservateurs, Marine Le Pen s'adapte, mais sa langue fourche.
C'est un heureux hasard, mes chers amis. Si la victoire européenne du 9 juin 2024 coïncide cette année avec la Pentecôte, qui marque, comme vous le savez, la descente de l'Esprit-Saint sur les premiers chrétiens et la naissance de l'Église. Chrétien.
Marine Le Pen fustige l'Union européenne. Je cite « empire marchand, wokiste, ultralibéral ». Un empire contre les nations européennes, une Europe qui menace, selon elle, les élections libres. Elle survole la présidentielle en Roumanie, le non au traité constitutionnel de 2005 ignoré, et s'attarde sur son cas personnel.
Voyez les tentatives d'interdiction ici et là, les persécutions judiciaires partout contre les mouvements patriotes. Et regardez ce qui se passe en France, où l'on veut interdire, en violant tous les principes du droit, à la principale opposante que je suis, de se présenter à l'élection présidentielle. Ce n'est pas seulement, mes amis, une profonde et scandaleuse injustice. C'est un mauvais coup à la démocratie. Ni ici, ni nulle part en Europe, nous les laisserons interdire au peuple de choisir leurs dirigeants.
Jordan Bardella a ensuite longuement pris la parole, sans faire aucune allusion à la condamnation de Marine Le Pen. Le chef du Rassemblement National a prononcé un discours au ton très présidentiel.
Antoine Maret à Mormant-sur-Vernisson dans le Loiret. Et plusieurs milliers de personnes se sont retrouvées à 6 km de là, à Montargis, pour un rassemblement contre l'extrême droite. Emmanuel Macron demande le retour dans les plus brefs délais des 6 ressortissants français qui étaient à bord de la flottille dite de la Liberté. Le voilier Madeleine qui transportait de l'aide humanitaire pour Gaza a été intercepté et dérouté par la marine israélienne dans la nuit. À son bord se trouvaient entre autres la militante suédoise Greta Thunberg et l'eurodéputée insoumise Rima Hassan. Israël assure qu'il est prévu que les passagers retournent dans leur pays. Bonsoir Rosalie Lafarge.
Bonsoir.
Pour faire pression sur le gouvernement israélien, la France insoumise et les écologistes ont appelé à des rassemblements un peu partout en France, avec à ce stade plus d'une centaine de points de rendez-vous pour dénoncer notamment la réaction jugée trop faible des autorités.
Oui, c'est l'Élysée qui a fait passer les mots d'Emmanuel Macron, demandant donc le retour des ressortissants français dans les plus brefs délais. Le ministre des Affaires étrangères, lui, a pris la parole, Jean-Noël Barrot.
Nous avons pris la tâche avec les autorités israéliennes en amont pour prévenir tout incident. Nous avions d'ailleurs alerté les ressortissants français sur les risques auxquels ils s'exposaient. Puis depuis l'arraisonnement de ce navire par les autorités israéliennes, nous avons demandé à pouvoir exercer ce que l'on appelle la protection consulaire, c'est-à-dire la protection par les agents du consulat français sur place vis-à-vis de nos ressortissants. Nous souhaitons pouvoir entrer en contact avec eux dès qu'ils rentreront sur le territoire israélien pour pouvoir leur permettre de rentrer dès que possible sur le territoire national.
C'est tout, s'étrangle le coordinateur de la France insoumise, Manuel Bompard, sur les réseaux sociaux. LFI trouve ça bien insuffisant, le député Thomas Porte.
On a une députée européenne française arrêtée par l'armée israélienne en dehors de tout cadre légal dans des eaux internationales. Emmanuel Macron n'a rien d'autre à dire qu'il aimerait bien qu'elle soit libérée sans évoquer la question du génocide, sans évoquer la famine. Donc Emmanuel Macron est aussi complice de ce qui se passe, y compris complice de cette arrestation. Parce que si Israël s'est permis d'arrêter un bateau d'aide humanitaire, c'est parce qu'il savait qu'il n'y aurait pas de réaction politique en France, dans certains États européens, des institutions européennes. Donc nous demandons une nouvelle fois à ce qu'Emmanuel Macron porte un peu de courage politique, sorte des mots et prenne des actes concrets contre l'État israélien.
Des actes qui pourraient passer par la reconnaissance d'un État de Palestine. Paris se dit depuis plusieurs semaines déterminé à le faire sous condition et doit aborder la question la semaine prochaine au cours d'une conférence internationale à New York.
Rosalie Lafarge a noté que des centaines de personnes sont parties aujourd'hui de Tunis à bord d'autocars à destination de la bande de Gaza avec l'intention déclarée de briser le blocus israélien. 14 ans après l'annonce par ETA de l'abandon de la lutte armée, une nouvelle étape est franchie. Étape symbolique, mais néanmoins majeure dans le processus de paix engagé au Pays Basque. Née sous le régime franquiste, l'organisation indépendantiste basque ETA est tenue pour responsable de plus de 650 morts en 60 ans d'existence. En 2011, au moment de l'annonce de l'abandon de la lutte armée, plusieurs mouvements civils ont vu le jour, notamment au Pays Basque français, et ils auront contribué à des avancées notables dans le processus engagé. Bonsoir Florence.
Bonsoir Aurélie.
Ces mouvements civils viennent de décider de mettre un terme à leurs activités. Ils sont convaincus d'être entrés dans un nouveau cycle, Florence, sans pour autant abandonner toute revendication dans le futur.
En octobre 2011, une conférence internationale pour la paix portée par Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies, s'ouvre à Saint-Sébastien, suivie 3 jours plus tard de l'annonce de Théa de renoncer à la lutte armée. Dans la foulée, des mouvements citoyens s'organisent, qui réunissent des militants, des syndicalistes, mais aussi des élus locaux de différents bords politiques. Leur action s'inscrit dans la droite ligne de la feuille de route internationale pour continuer à faire avancer le processus, quitte parfois à générer des mouvements de désobéissance civile, afin de parvenir notamment au désarmement de Théa, rappelle Anaïs Funosa, ancienne présidente du mouvement Bakebidea, le chemin de la paix en basque.
Personne n'aurait parié en 2012, quand on se lançait, qu'on arriverait sans la volonté des États à arriver à un désarmement de l'ETA, qui a après ouvert à sa dissolution une question des prisonniers mise sur la table par une majorité de la société civile avec un espace de dialogue inédit entre le ministère de la Justice et les représentants du Pays Basque Nord, parce que ça, c'était des choses qui étaient tout le temps déléguées au côté espagnol.
Désormais, il ne reste plus que 3 détenus basques dans les prisons françaises et les associations estiment avoir contribué à une évolution de la société, selon elles, plus consciente, plus éveillée, un passage de témoin sans pour autant renoncer à toute revendication, précise Anaïs Funosa.
C'est la non-reconnaissance, encore une fois, la non-reconnaissance de la langue basque au Pays Basque, mais c'est aussi avoir un territoire qui a les outils pour faire front à la question du logement et du foncier, à la question de la transition écologique. On a aujourd'hui un territoire qui n'a pas assez de moyens pour pouvoir réellement construire un cadre de paix en Pays Basque. La paix, c'est pas que la fin des armes. Et je crois que ce chemin-là nous a façonnés aussi dans ce sens-là.
Parmi les revendications figure la création d'une commission vérité et réconciliation, mais aussi la réinsertion dans la société d'anciens détenus, anciens membres d'ETA.
Florence Sturm. Les Jeux de Paris 2024 ont dégagé un excédent budgétaire, on le savait déjà, mais le chiffre annoncé en décembre était très sous-évalué. L'excédent s'élève finalement non pas à 27, mais à 76 millions d'euros. C'est en soi une bonne nouvelle, mais à qui cela va-t-il bénéficier? Eh bien, 20% doivent être reversés au comité international olympique, autant au comité olympique français, et 60% au fonds de dotation de Paris 2024, géré entre autres par le comité national olympique, le comité paralympique, la ville de Paris et la région Île-de-France. Mais le socialiste Stéphane Troussel, qui préside le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, ne se satisfait pas de cette répartition. Il demande que 80% de l'enveloppe soit reversée aux collectivités ayant accueilli l'événement. Écoutez-le.
Ce que je souhaite, c'est que tous les programmes qui ont fait leurs preuves avant et pendant les Jeux, ils puissent, grâce à ce boni versé au fonds de dotation de Paris 2024, eh bien, ils puissent servir à continuer de développer ces programmes qui ont fait leurs preuves pour développer le sport dans notre pays. Je pense particulièrement au savoir nager. C'est par exemple 13 000 enfants de la Seine-Saint-Denis qui, entre 2021 et 2024, ont pu avoir des sessions d'apprentissage de la natation pour sortir de ce chiffre qui n'est pas acceptable, de plus d'un enfant sur deux qui ne sait pas nager quand il arrive en sixième, ou bien des programmes aussi d'insertion par le sport qui ont fait leurs preuves et qu'il faut pouvoir, grâce à ce boni, continuer. Et je pense aussi à ce qui permet, dès cet été, la célébration populaire des Jeux, parce que ça rassemble, et bien tout comme les crédits qui viennent d'être fléchés pour permettre la réactivation de la Vasque olympique dans Paris, eh bien, je souhaite que on puisse également rendre éligibles des actions que nos collectivités, avec différents partenaires, peuvent proposer dès cet été pour célébrer les Jeux et de manière populaire, un an après, et que ça permette aussi de rassembler la population. C'est de cela dont on va discuter très vite.
Stéphane Troussel, joint par Hakim Kasmi. La Seine-Saint-Denis, département le plus pauvre de l'Hexagone, est aussi celui qui a accueilli le plus grand nombre d'épreuves. Los Angeles s'attend à de nouvelles manifestations aujourd'hui pour le 4e jour consécutif. Des mouvements de protestation contre les arrestations de migrants illégaux par la police spécialisée mandatée par l'administration Trump. Le président a fait déployer quelques 2000 membres de la garde nationale sur place pour tenter de contenir les manifestations et il a promis hier un retour à l'ordre. Mais dans cet état où 40% de la population est hispanique et où les latinos constituent également le groupe ethnique le plus important de la population active de l'état, eh bien ces arrestations ne passent pas. Bonsoir Sébastien Paour.
Bonsoir à tous.
Correspondant de France Culture aux États-Unis. Alors on commence par faire avec vous, Sébastien, un point sur la situation.
Alors les 300 premiers gardes nationaux sont déployés sur les 2000 annoncés, armés, casqués, en tenue camouflage. Un nouveau rassemblement des opposants à ces arrestations de sans-papiers est prévu en début d'après-midi. Pour l'instant, il est un peu plus de 9h à Los Angeles. Près d'un centre de détention de l'État aura lieu ce rassemblement où une soixantaine de migrants arrêtés ces 3 derniers jours auraient été transférés. Downtown Los Angeles, le centre-ville, a été déclaré zone de rassemblement interdit par la police la nuit dernière. Après les affrontements d'hier soir, gaz lacrymogènes, voitures incendiées, autoroutes bloquées, affrontements aussi à San Francisco, un peu plus au nord. Le camp Trump, comme les médias conservateurs, sont dans la surenchère. Le président parle de menaces existentielles. Il décrit une ville envahie et occupée par des foules violentes et insurrectionnelles. Et il ordonne d'arrêter tous ceux qui portent des masques, c'est-à-dire qui cachent leur visage.
Derrière ces affrontements dans la rue, Sébastien, il y a un face-à-face politique.
Oui, il y a tout ce que Trump attendait dans ce qui se passe à Los Angeles depuis vendredi. Il y a un bras de fer avec une figure du Parti démocrate, le gouverneur de l'État, Gavin Newsom, qu'on donne possible candidat à la Maison-Blanche en 2028, dans un État profondément démocrate, la Californie, et sur un des sujets favoris du trumpisme, l'immigration. Newsom et la police de Los Angeles n'ont pas demandé l'aide de la garde nationale, mais Trump veut montrer qu'il est ferme sur cette question migratoire. Résultat, eh bien Newsom parle de violation de la souveraineté de l'État et il porte plainte contre l'ordre de Trump d'envoyer la garde nationale sans l'avoir consulté. Il l'a dit hier soir sur MSNBC. Donald Trump a créé les conditions que vous voyez à la télévision. Il a exacerbé la situation. Il met de l'huile sur le feu. Depuis qu'il a annoncé qu'il prenait le contrôle de la garde nationale de manière illégale, immorale et inconstitutionnelle, et nous allons contester ça en justice. L'État fédéral contre le plus grand État du pays, dans un contexte de tension qui dure entre Trump et Newsom, tension pendant les incendies de Los Angeles en début de l'année, et globalement depuis le retour de Trump au pouvoir. Le gouverneur suggère de ne pas verser tous les impôts californiens à l'État fédéral, là où la Maison-Blanche envisage d'annuler une grosse partie des fonds fédéraux à la Californie.
Merci Sébastien Paour pour ces explications depuis Washington. Et de nombreuses voix s'élèvent aujourd'hui pour répondre au président américain. Dans les médias et sur les réseaux sociaux, la riposte politique se dessine pour expliquer que c'est le pouvoir qui est responsable des tensions de ces dernières 48 heures, Nathanaël Charbonnier.
Brian est connu pour être un influenceur politique. Dans une courte vidéo, il s'emploie à rapprocher la décision de Donald Trump d'envoyer la garde nationale et le possible scandale d'une connexion entre Trump et l'ancien criminel sexuel Jeffrey Epstein.
On peut facilement imaginer qu'il n'y a pas de coïncidence avec les révélations par Elon Musk sur son réseau X qui explique que Trump est concerné par l'affaire Epstein et cette décision de Trump d'envoyer la garde nationale de créer le chaos dans l'une des villes les plus populaires aux États-Unis connue pour ses émeutes.
Plus politique, le sénateur démocrate Chris Murphy, qui depuis sa cuisine prend la parole pour alerter ses compatriotes sur le piège que leur tendrait le président américain.
Donald Trump envoie la garde nationale pour créer un conflit, pas pour résoudre un problème, mais bien pour créer un problème. Comme cela, Donald Trump souhaite avoir l'occasion de détruire davantage notre démocratie en invoquant des lois comme la loi martiale. C'est un moment important que nous vivons.
Et pour comprendre le côté exceptionnel de l'intervention de la garde nationale, il faut remonter bien loin dans le temps, comme en 1965 en Alabama, lors d'une célèbre marche de Martin Luther King et de ses partisans.
Nathanaël Charbonnier, Donald Trump déclare à l'instant que déployer l'armée à Los Angeles était une excellente décision. L'Ukraine et la Russie entament un nouvel échange de prisonniers de guerre qui devrait se poursuivre ces prochains jours. Cet échange avait été décidé au cours d'un deuxième cycle de négociations directes à Istanbul le 2 juin. Russes et Ukrainiens avaient alors convenu de libérer tous les prisonniers de guerre grièvement blessés ou malades et ceux âgés de moins de 25 ans. Alors que les négociations de paix sont dans l'impasse, Sylvain Tronchet, il s'agit de l'un des rares résultats des récents pourparlers entre les deux belligérants.
Après un week-end où Kiev a accusé Moscou de jouer un sale jeu et de perturber l'opération, les échanges de prisonniers convenus à Istanbul ont finalement bien débuté aujourd'hui. On ne sait pas combien de soldats ont été effectivement échangés, pour raison de sécurité, ont expliqué les Ukrainiens, mais l'armée russe a publié une vidéo où l'on voit une cinquantaine de soldats russes montés dans un bus à un poste frontière et crier « Hurra ! Hurrah, nous sommes à la maison. » Ces soldats d'apparence jeune semblent avoir été échangés dans le cadre de l'accord concernant les prisonniers de guerre de moins de 25 ans. De nouveaux échanges auront lieu dans les jours qui viennent, affirment les deux camps. Moscou et Kiev ont également convenu d'échanger les corps de 6000 soldats tués. Ce week-end, Moscou a accusé Kiev de ne pas avoir voulu réceptionner un camion frigorifique contenant plus d'un millier de corps. Kiev affirmant qu'aucun rendez-vous n'avait été fixé.
Sylvain Tronchet, à Moscou, la Russie a lancé la nuit dernière sa plus grande attaque de drones depuis le début de la guerre, selon l'armée de l'air ukrainienne, qui fait également état de dommages sur une base aérienne dans l'ouest du pays. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, appelle à Londres les pays de l'Alliance à quintupler leur capacité de défense anti-aérienne afin de protéger l'Europe de la Russie. Moscou qui réplique en accusant l'OTAN l'OTAN d'être un instrument d'agression. Nous y reviendrons dans le journal de 19h avec Eric Biegala. Le temps demain, il sera chaud et ensoleillé. Il fera gris sur les côtes de la Manche et le Nord-Pas-de-Calais, mais le beau temps dominera ailleurs avec le plus souvent un grand soleil. Au petit matin, il fera entre 7 et 12 degrés sur la moitié nord, 10 à 20 dans le sud. L'après-midi, il fera de 17 à 33 degrés du nord au sud.